Bismillah, tu peux allumer? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوردين نوردين laisse les frères écouter le cours. Donc nous continuons là où nous étions arrêtés, à savoir le fait de boire l'eau de Zamzam après le tawaf. Donc une fois que la personne a effectué son tawaf, elle a tourné les 7 tours autour de la Kaaba, il est recommandé de boire l'eau de Zamzam. Il est recommandé de boire l'eau de Zamzam. Donc cette sunna s'opère après le tawaf et avant le sa'i. L'eau de Zamzam qui est Sayyidul Miyah, la maîtresse des eaux, l'eau la plus importante. Et cette eau, c'est l'eau qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait jaillir pour le prophète Ismaïl alayhi salam et pour sa fille Hajar. Et parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, c'est que la source de l'eau de Zamzam, elle court toujours par la volonté d'Allah Azza wa Jal jusqu'à aujourd'hui et bi'idhnillah jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que cette eau qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait jaillir pour Hajar et son fils Ismaïl, aujourd'hui on peut encore en profiter. On peut encore profiter de cette eau, et ça c'est un grand bienfait de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de sa bienfaisance. Et celui qui veut connaître l'histoire de l'eau de Zamzam, il y a un hadith, le hadith numéro 3364 dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, où on a l'histoire où le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jalla lui a ordonné de amener sa femme Hajar et son fils Ismaïl dans un endroit béni, dans un endroit désertique. Et lorsque Ibrahim alayhi salam il les a déposés là-bas, il les a laissés, il est reparti. Alors il lui a dit: Ibrahim, pourquoi tu nous laisses ici? Pourquoi tu nous laisses dans cet endroit désertique? Alors il n'a pas répondu. Elle lui dit: Ibrahim, pourquoi tu nous laisses ici? Jusqu'à la troisième fois, elle lui dit: Allah amaraka bihada, est-ce Allah qu'il t'a ordonné de nous laisser ici? Alors à ce moment-là, il s'est retourné et lui a dit: Na'am, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui m'a ordonné de te laisser ici. Alors, quand elle a su, regardez cette femme et cet homme, comment ils étaient soumis à l'ordre d'Allah azza wa jal. Alors Ibrahim, et vous lirez l'histoire plus en détail, Ibrahim alayhi salam, il s'est écarté. Une fois qu'elle ne le voyait plus, il a invoqué en faveur du lieu, en faveur de sa descendance, en faveur de cette ville bénie qui est la Mecque. Ensuite, Hajar, elle a cherché autour d'elle et elle a vu qu'il y avait un mont que l'on appelle Safa. Alors elle est partie vers Safa. Elle a cherché pour voir. Elle a vu qu'il y avait un autre mont que l'on appelle Marwa. Alors elle est partie en direction de Marwa et elle a fait cela à 7 reprises. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la 7e fois, donc elle arrive à Marwa, elle voit près donc de la Kaaba, là où son fils était, l'endroit de la Kaaba bien sûr, parce que la Kaaba n'était pas encore construite, à cet endroit-là, Elle voit quelqu'un auprès de son fils et c'était l'ange Jibril. L'ange Jibril alayhi salam qui frappe de son aile, ou dans une autre version dans le Bukhari, qui frappe de son talon, et l'eau de Zamzam a jailli. Et c'est elle, Hajar, qui a contenu l'eau. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah pour qu'il récompense Hajar. Il a invoqué Allah pour qu'il récompense Hajar parce qu'elle en est la cause qu'aujourd'hui on a accès à cette eau-là. Donc regardez le grand bienfait de l'eau de Zamzam. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu de cette eau et il en a versé sur sa tête lors du pèlerinage d'adieu, après son tawaf et après le fait d'avoir prié derrière le maqam. Donc on a dit, tu fais le tawaf, ensuite tu pries deux raka'at et ensuite tu bois l'eau de Zamzam. Également le prophète alayhi salatu wasalam, il a bu après le tawaf de l'ifada. Il a bu après le tawaf de l'ifada. Donc en réalité, on voit à partir de cela que, à partir des faits du prophète alayhi salatu wasalam, dans différents tawafs, il a bu, que ce soit dans le tawaf d'adieu, que ce soit dans le tawaf de l'ifada. On voit que le prophète alayhi salatu wasalam a bu du Zamzam, donc cela est une sunnah. Également, on voit que le Zamzam, on le boit, mais on peut aussi en verser sur tout le corps. Comme l'a fait le prophète alayhi salatu wasalam, il en a versé sur sa tête, donc tu commences par la tête et il n'y a pas de mal à te rafraîchir comme cela avec le Zamzam. Deuxième point, il dit, le mérite de cette eau est mentionné dans le long hadith d'Abu Dharr, cité dans le Sahih de l'imam Muslim. Et notamment dans ce hadith, il est dit, innaha mubarakah, c'est une eau qui est bénie. Innaha ta'amu tu'min, c'est une nourriture rassasiante. Et dans une autre version, wa shifa'u suqmin, et c'est une guérison pour les maladies. Donc ici on voit à partir de ce hadith et de sa version que l'eau de Zamzam, dedans a été cité trois mérites. Trois mérites de l'eau de Zamzam ont été cités. Premièrement, c'est une eau bénie. Et c'est une eau d'une grande utilité. Elle augmente, c'est-à-dire le fait qu'elle soit bénie, c'est que son bienfait augmente sans cesse. Et parmi la baraka de cette eau, puisqu'on a vu depuis l'époque de Hajar jusqu'à aujourd'hui, les gens en profitent, les personnes en profitent. Et ça, cela fait partie de la baraka de cette eau. Également parmi la baraka de cette eau, c'est quoi? C'est que c'est une nourriture. Subhanallah, une eau qui nourrit la personne, elle rassasie la personne affamée et elle abreuve la soifée. Et troisième, c'est que c'est une guérison. Par la cause d'Allah Azza wa Jal, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est une guérison de la maladie. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma ou zamzam lima shuribala. L'eau de Zamzam, elle est pour ce qu'elle est bu. Et subhanallah, lorsque tu lis les histoires qui ont été rapportées par les savants ou autres, c'est que beaucoup de personnes, par la grâce d'Allah, ont été guéries. Ont été guéries par le fait de placer leur confiance en Allah Azza wa Jal et de boire l'eau de Zamzam et de faire la cause de l'eau de Zamzam. Et beaucoup de savants conseillent de faire comme des cures de Zamzam. C'est-à-dire de profiter, quand tu es sur place, de boire un maximum de Zamzam. Profiter, lorsque tu es sur place, de boire un maximum de Zamzam. Nous sommes dans une époque où les gens sont plus... ils sont plus attirés par les fast-foods, par le McDo, le KFC, le Burger King, le Hardee's. Ils sont, McDo, et tu en délaisses le Zamzam. Et tu en délaisses le Zamzam et les cures de Zamzam, alors qu'en réalité, profite de cet endroit-là. Tu vois, le Zamzam à volonté. Avant, il y a quelques années, le Zamzam, fallait aller au puits, directement, mais c'était compliqué. Là, aujourd'hui, partout où tu te trouves, quasiment dans la mosquée, tu as accès à un verre frais ou moins frais, en fonction de ton choix, etc. Donc profite quand tu es sur place de boire un maximum de Zamzam. Exactement. Exactement. Déjà, l'eau, d'une manière générale, c'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. L'eau. Que dire de Sayyid al-Miyah, de la maîtresse des eaux, de l'eau la plus importante qui est l'eau de Zamzam. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « Ma'u Zamzam lima shuribala ». L'eau de Zamzam, elle est pour ce qu'elle est bu. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau de Zamzam, elle est pour ce qu'elle est bu? Ça veut dire que toi, quand tu bois l'eau de Zamzam, tu la bois avec une niya, avec une intention. Tu la bois avec une intention. Un exemple, la personne, elle est malade. Elle va dire Bismillah et elle va boire l'eau de Zamzam pour la guérison. Et il n'y a pas de mal à ce qu'ensuite elle invoque. Un exemple, tu dis Allahumma ij'al hadha al-ma sababan li shifa'i maradi. Oh Allah, fais que l'eau que je viens de boire est une cause pour la guérison de ma maladie. Tu bois l'eau de Zamzam, un exemple, parce que la personne, elle cherche à se marier. Oh Allah, fais que cette eau que j'ai bu est une cause de mon mariage. Il veut trouver un travail, peu importe. Ma ou Zamzam, lima shuribala. L'eau de Zamzam, elle est pour ce qu'elle est bu. L'eau de Zamzam, elle est pour ce qu'elle est bu. Et un des savants qui a expliqué le Sahih al-Bukhari, il explique quoi? Il explique que la meilleure chose pour laquelle on boit l'eau de Zamzam, c'est quoi? Tahqiq al-Tawhid. C'est le fait de concrétiser l'unicité d'Allah. La meilleure chose pour laquelle, la meilleure intention que tu peux avoir lorsque tu bois l'eau de Zamzam, c'est de demander à Allah Azza wa Jal de t'aider à concrétiser le Tawhid. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu concrétises le Tawhid, le jour où tu mourras et tu entreras au paradis sans jugement et sans châtiment. Exactement, et ça, exactement, cela, et ça, c'est un sujet qui est important, qui est At-tib an-nabawi, la médecine prophétique. On a énormément de choses qui sont des causes de la guérison par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il dit dans Zad al-Ma'ad, l'eau de Zamzam, Sayyid al-Miyah, c'est la maîtresse des eaux. C'est-à-dire l'eau la plus importante, c'est la plus noble et la plus émérite d'entre elles. Elle est la plus aimée auprès des âmes, c'est l'eau qui leur est la plus chère et la plus précieuse pour les gens. Donc ici, il est permis aux pèlerins ou à celui qui fait la Umra de s'approvisionner en eau de Zamzam et de ramener l'eau de Zamzam dans son pays pour la boire, pour l'utiliser comme remède ou pour l'offrir. C'est un des plus précieux cadeaux à offrir, car c'est une eau bénie, elle contient la guérison. Elle contient la guérison. Et il a été rapporté de Aïcha radiallahu anha qu'elle prenait de l'eau de Zamzam avec elle.
Yassine, maintenant l'Arabie Saoudite a restreint l'eau.
Ils ont restreint, mais tu peux prendre quand même 5 litres. Non, c'est 5 litres. Tu as le droit à 5 litres avec toi. Donc, alhamdoulilah, c'est un grand bienfait. C'est un grand khair. Bien que ça part vite, mais alhamdoulilah. On peut. C'est ça. En fait, il y a quelques années, on pouvait prendre 10 litres. Encore avant, 20 litres. Là, en ce moment, c'est 5 litres et c'est normal. Au plus où les gens deviennent, c'est normal. Donc, en tout cas, chaque pèlerin peut revenir avec lui avec 5 litres en ce moment. D'accord? Donc, alhamdoulilah, c'est un grand khair. Ça reste un grand bien. Donc, Aïcha, radiallahu anha, elle prenait de l'eau de Zamzam avec elle. Et elle informa que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il en a pris avec lui. Le prophète, alayhi salam, lui aussi, il a pris de l'eau de Zamzam et qu'il en a ramené avec lui. Et là, on voit un point qui est important. C'est, ça fait partie des plus beaux cadeaux que tu peux ramener. Malheureusement, certains pèlerins, lorsqu'ils vont là-bas, ils ramènent des cadeaux qui, à la base, ne sont même pas licites. Des fois, ils vont ramener des cadeaux, il y a des fois des choses qui sont contraires à la religion. Ou des fois, il y a même des cadeaux qu'ils vont ramener et dans la croyance des gens, en fonction de ce cadeau, il y a un problème. Je vais juste vous donner un exemple pour ne pas rentrer dans le détail. Beaucoup de personnes, lorsque tu pars en Umra ou en Hajj, ils te disent « ramène-moi du djaoui ». Le djaoui, c'est comme les pierres, là, une sorte de pierre rouge, bleue, ou là, enfin bleu, je ne sais pas si c'est bleu, mais rouge, rose, etc. Ou c'est comme bakhour. Et un jour, je demande à une personne, je dis, mais pourquoi vous voulez, à chaque fois, moi je voulais savoir c'était quoi le bienfait, comment vous l'utilisez. La personne vous demandait le djaoui, donc c'est quoi, je ne connaissais pas ce truc. Vous savez ce qu'elle me dit, cette personne? C'est une personne âgée, qu'Allah Azza wa Jalla guide et qu'il nous guide, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, non, nous on la met, on le fait brûler le djaoui, là, donc c'est comme une sorte de, de pierre que tu fais brûler dans la casserole comme ça et que ça met une odeur. Je dis, mais c'est quoi l'objectif? C'est que du parfum ou c'est... Elle me dit, non, c'est pour Assas ud-Dar. Je dis, ah, pour Assas ud-Dar, le gardien de la maison. Je dis, bah, c'est qui? Elle me dit, bah, Assas ud-Dar, c'est un djinn qui surveille notre maison, qui nous protège. Et on met ça pour l'attirer. Wal-iyadhu billah. Regardez, certaines personnes, je ne suis pas en train de dire que toute personne l'utilise pour ça. Ce qu'il utilise pour le bachour ou autre, c'est autre chose. Mais là, regardez des fois, des personnes, tu vas leur ramener des choses et regardez derrière, shirkiyat, les choses, wal-iyadhu billah, qu'est-ce qui nous protège? Si ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Une fois que tu as bu l'eau de zamzam, tu te rends en direction du sa'i. Sa'i, c'est le fait de faire les trajets entre le mont Safa et le mont Marwa. Comme Allah Azza wa Jalil dit, inna Safa wal Marwa min sha'a'irillah. Certes, Safa, le mont Safa et le mont Marwa fait partie des rites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, et comme on a vu, c'était un pilier. Safa Marwa, c'est un pilier du Hajj et c'est un pilier de la Umra. Et ici, il est meilleur d'enchaîner. Tu as fait le tawaf, tu pries de rak'at, tu bois l'eau de zamzam et tu vas à Safa. C'est pas obligatoire. Si la personne veut se reposer ou autre, mais al-awla, ce qui est prioritaire, c'est al-mu'alat. C'est le fait d'enchaîner le sa'i directement après le tawaf. Donc après avoir effectué le tawaf de la Umra, celui qui accomplit la Umra se dirige vers le sa'i entre Safa et Marwa. Donc toi, une fois que tu as terminé le tawaf, tu continues, donc tu laisses la porte de la Kaaba à ta gauche et là, vers ta droite, donc tu peux continuer, tu n'es pas obligé de sortir, tu continues encore et vers ta droite, tu auras la sortie. Il est marqué, c'est indiqué, sa'i, le sa'i entre Safa et Marwa. Et là, tu vas te rendre vers le Safa et Marwa. Donc tu pries, tu bois l'eau de Zamzam et tu te rends, tu te diriges en direction de Safa et Marwa. Bien sûr, concernant l'eau de Zamzam, si tu fais ta Umra pendant la journée de Ramadan et que tu jeûnes, bah, tu ne buveras pas le Zamzam parce que c'est une sunna. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de mal à cela. Donc ici, on a vu que c'était un pilier pour le Hajj et pour la Umra. Il en est de même pour celui qui accomplit les rites du Qiran et du Ifrad, qui font eux aussi le sa'i après le tawaf d'arrivée. Mais ça, on avait vu qu'il leur est permis, pour celui qui fait le rite Qiran ou pour celui qui fait le rite Ifrad, il lui est permis de retarder le sa'i lors du tawaf Ifada. Ça, on l'avait expliqué. D'accord? On avait expliqué cela. Ensuite, le sa'i entre Safa et Marwa est constitué de 7 tours, de 7 trajets. C'est comme le tawaf. Un sa'i, c'est 7 trajets. C'est pas plus et c'est pas moins. Le sa'i, il commence par Safa. Donc tu débutes par Safa et tu termines où? À Marwa. Safa Marwa 1. Marwa Safa 2. Safa Marwa 3. Marwa Safa 4. Safa Marwa 5. Marwa Safa 6. Safa Marwa 7. Donc tu commences à Safa et tu finis à Marwa. Et là aussi, on fait attention. Certains pensent que Safa, Marwa, Marwa, Safa, c'est 1. Donc ils en font combien en réalité? 14. Ils en font 14 parce que 2, c'est... Eux, ils pensent que c'est un aller-retour. Non, ça c'est une erreur. Un aller, un trajet, c'est un tour. D'accord? C'est un shout. Donc tu fais 7. Donc ça commence à Safa et ça termine à Marwa. Ici, on a un moyen mnémotechnique que le Cheikh il donne. Si tu doutes entre 4 et 5, souvenez-vous dans le tawaf, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit premièrement, tu regardes dans le tawaf, ghalabatul dhan, 4 et 5, mais tout le monde te dit que c'est 5. Tout porte à croire que c'est 5. Dans ce cas-là, c'est 5. Tu ne sais pas du tout. Dans ce cas-là, c'est la certitude. La certitude, c'est quoi? C'est le nombre le plus petit. Mais pas dans Safa Marwa. Comment tu fais dans Safa Marwa? Un exemple, tu es dans ton trajet et tu ne sais pas si c'est 4 ou 5. Ben, comment tu fais? Ben, tu regardes dans quel sens tu es. Parce que si tu es dans le sens de Safa jusqu'à Marwa, c'est obligé que c'est un nombre impair. C'est soit le premier, soit le troisième, soit le cinquième ou soit le septième. Et si tu es de Marwa à Safa, c'est soit le deuxième, soit le troisième ou soit le cinquième. Donc si j'ai un doute entre 4 et 5, et je suis en train de faire de Safa vers Marwa. C'est quoi? C'est 4 ou c'est 5?
C'est
5, obligatoirement. Pourquoi? Parce que de Safa à Marwa, c'est un pair. 1, 3, 5, 7. Et de l'autre côté, ça aurait été 4. Et de l'autre côté, c'est pair. Vous suivez ça? Ça, c'est un moyen mnémotechnique important. D'accord? Ensuite, lorsque tu t'approches de Safa, à ce moment-là, tu récites le verset 158 de Surat al-Baqarah. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Donc, tu peux conclure le verset. Il n'y a pas de mal à le lire. D'accord? Ou ce que le guide répète, et toi tu répètes derrière lui. Mais ça, c'est une règle. Attention, quand le guide y répète, lui va le faire de manière à ce que toi tu entends, mais toi tu n'as pas besoin de le dire fort, parce que tu vas déranger les personnes. D'accord? Mais le mieux, c'est de l'apprendre et de ne pas attendre à ce que le guide te le dise, parce qu'il y a du bruit, il y a du monde, etc. Apprends-le, et lorsque tu vas vers Safa, tu le dis. Également, il est sunna de dire Nabda'u bima bada Allahu bihi. Nous commençons de là par ce avec quoi Allah Azza wa Jalla a commencé. Dans le verset, Allah il dit Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Certes, Safa et Marwa font partie des rites d'Allah Azza wa Jalla. Donc Allah il a commencé par Safa ou par Marwa? Il a commencé par Safa. Donc nous on commence par Safa, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est obligatoire de parcourir l'intégralité de la distance entre Safa et Marwa lors de tous les parcours. C'est pas un exemple, tu es en train de faire Safa et tu vois qu'il y a une ouverture pour le retour et tu esquives et tu retournes directement. Non, tu es obligé de faire l'intégralité du trajet. Par contre, monter, bien sûr, maintenant c'est une petite légère montée, mais le fait de monter, ça se, comme sur la montagne haute, ce n'est plus ça, c'est pas obligatoire, c'est une sunna. Mais ce qui est obligatoire, c'est le fait de faire les trajets entre les deux montagnes. C'est le fait de faire les trajets entre les deux montagnes. Ensuite, dans le sa'i, tu vas accélérer le pas, tu vas forcer le pas entre les lumières vertes. Donc ici, en fait, tu verras que lorsque tu débutes à Safa, quelques mètres après, tu as une lumière verte qui fait comme un néon qui va sur quelques mètres comme ceci. Et ici, en fait, c'était le creux d'une vallée. Donc ici, la sunna, c'est d'accélérer le pas. La sunna ici, c'est d'accélérer le pas. Par contre, tout le reste du parcours, tu le fais en marchant, comme cela a été rapporté dans le hadith de Jabir. Et dans chaque parcours, on s'arrête à Safa et on s'arrête à Marwa en s'orientant vers la Qibla. Et ça, c'est une sunna très importante que beaucoup délaissent malheureusement. Dès que tu arrives à Safa, tu te mets en direction de la Kaaba. Tu lèves les mains. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahda, la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Et tu fais des longues invocations. Tu fais des longues invocations. Et tu fais cela trois fois. Et tu fais cela trois fois. Donc dans certaines versions, tu as yuhyi wa yumit, et dans d'autres versions, tu n'as pas la parole yuhyi wa yumit. Ici, le cheikh, il ne la rapporte pas. Donc ici, tu te mets, tu fais le dhikr, tu fais des du'as. Ensuite, tu refais le dhikr, tu fais des du'as, tu fais le dhikr et tu fais les du'as. D'accord? Et là, on avait dit, souvenez-vous, il y a six moments dans le hajj où le prophète, alayhi salatu wa salam, il s'est arrêté. C'est un moment d'exaucement des invocations. Premièrement, à Safa. Deuxièmement, à Marwa. Troisièmement, à Arafat. Quatrièmement, à Muzdalifah. Cinquièmement, à Mina, lors de que tu lapides la première stèle. Et sixièmement, lorsque tu lapides la deuxième stèle, tu t'arrêtes et tu invoques. Donc ici, il est important d'invoquer à ce moment-là. Quand tu arrives à Safa, tu invoques. Tu arrives à Marwa, tu t'arrêtes et tu invoques. À Safa, tu invoques, etc. Et tu fais ça à chaque tour. Il n'y a pas d'évocation ou d'invocation spécifique pour le sa'i. Il n'y a pas de zikr ou de du'a spécifique. Invoque, donc passe ton temps. Et malheureusement, beaucoup, ils passent leur temps dans les futilités. Ça rigole, ça discute, c'est avec son téléphone, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que le tawaf il est fini, leur umra est terminé. Non, ta umra n'est pas terminée, tu es en train de faire un pilier. Donc concentre-toi, lis le Coran, fais des du'a, fais du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Profite pour réciter le Coran ou autre. Donc il n'y a pas d'invocation. Et comme on l'a vu, comme dans le tawaf, certaines personnes, ils font les dua du premier tour, dua du deuxième tour, dua du troisième tour, ils ont des livres qui sont distribués, etc., dans leur pays ou autre. Non, ça c'est une erreur, il n'y a pas de preuve. Être en état de purification rituelle n'est pas une condition pour le sa'i entre Safa et Marwa, car il n'y a aucune preuve à ce sujet. Donc ici, c'est meilleur d'avoir tes ablutions, mais si tu perds tes ablutions après le tawaf, ici il n'y a pas de mal que tu fasses le sa'i sans ablution. Et les savants sont unanimes sur cela. Ensuite, l'origine du sa'i, c'est l'acte de Hajar, la mère d'Ismaïl. Et son histoire est citée, comme on a dit tout à l'heure, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3364. Et dedans, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit « فَذَلِكَ السَّعِيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا » Tel est le sa'i entre les gens. Yani, tel est le sa'i des gens entre eux. Par rapport à cette histoire, les gens font cela. D'accord ? Et certains mufassiroun, ils rapportent, et ça aussi c'est un grand sujet, c'est un grand point de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il mentionne que les kuffars, au temps du prophète alayhi salam, ils avaient mis, donc au temps de la Jahiliya, ils avaient mis une statue à Safa et une statue à Marwa. Et lorsqu'ils faisaient Safa Marwa, ils leur faisaient pour les statues. Mais toi, dès que tu arrives, tu dis La ilaha illallah. Tu le fais pour Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une grande preuve du tawhid, de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le sa'i n'est effectué que dans le Hajj ou dans la Umrah. C'est pas comme le tawaf. Le tawaf, on a dit, c'est un pilier. Ou c'est une obligation. Ou c'est une sunna. C'est-à-dire que tu peux faire des tawaf en plus surrogatoires. Mais le sa'i, non. Tu le fais dans ton Hajj, tu le fais dans ta Umrah, c'est terminé. Il n'y a pas de sa'i surérogatoire. Cela, il n'y a aucun dalil, aucune preuve quant à cela. Contrairement au tawaf. Également, il est important de ne pas déranger les gens dans le sa'i. Malheureusement, tu as des gens en groupe qui sont là et qui font du'a, et qu'ils font du'a en groupe, et les autres ils font du'a derrière. Toi, tu es en train de lire le Coran, tu es en train de faire tes du'a, tu ne sais même plus où tu es. Donc ici, non, on ne doit pas déranger nos frères et nos sœurs, parce que ça, c'est interdit. Et subhanallah, quel bienfait qu'Allah Azza wa Jal te permet d'invoquer. Donc invoque, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Invoquez votre Seigneur, tadarru'an, avec humilité, wa khufya, en silence, avec discrétion. C'est comme ça que tu dois invoquer, tu ne dois pas invoquer comme cela, à voix haute, etc. Et ensuite, on passe donc au dernier chapitre pour le cours pour ce cours-là, et ce qui va venir signifier la fin de ta amra, qui est le halq ou le taqsir, le fait de te raser ou de raccourcir tes cheveux. Cela va venir symboliser la fin de ton état de sacralisation. D'accord ? Donc ici, le fait de se raser les cheveux, subhanallah, beaucoup de pèlerins, surtout les hommes, sont éprouvés par cette adoration. Surtout ceux qui ont des beaux cheveux, des longs cheveux, ceux qui ont... Subhanallah, beaucoup, tu serais étonné à quel point c'est difficile pour certains de couper leurs cheveux, de raser leurs cheveux. Oui, mais le travail, oui, mais on va se moquer de moi, oui, mais... Yahri, subhanallah. Où tu es? C'est une obligation de ta amra déjà. Et en plus de cela, ça fait partie des grandes preuves du tawhid. Regarde dans d'autres cultures, dans d'autres religions... Ils rasent leurs cheveux pour Bouddha, ou là pour la statue, ou là pour ceci, ou là pour cela. Toi, cette beauté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis sur ton visage, Allah azza wa jal, il te demande de l'enlever. Tu enlèves cette beauté, pourquoi? Pour Allah, par soumission envers Allah azza wa jal, par obéissance envers Allah azza wa jal, parce que tu t'humilies devant ton Seigneur. Tu es un esclave de ton Seigneur. En faisant cela, tu te rapproches d'Allah azza wa jal. Subhanallah, il y a quoi de compliqué? Tu t'assois, on te rase. Regarde, mais ça a une grande signification parce que tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala par cela. Exactement. Donc,
est-ce que celui qui se pose la question, est-ce qu'il le fait pour Dieu ou le fait pour les humains?
Exactement, c'est ça. C'est ça, lorsque, regarde, tu es venu, pourquoi tu vas te cacher? Pourquoi tu vas te... Eh, on doit être fier de notre islam. On doit être fier de notre islam. Et comment, même là-bas, tu arrives encore à penser à cette dunya. Tu arrives encore à penser à ceci ou à cela. Ouais, mais les gens, ils pensent que je suis parti là. Et après, subhanallah. C'est là que tu vois comment, en fait, on est malheureusement accroché à cette dunya. Donc ici, non. Ici, bismillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué 3 fois en faveur de celui qui rase tout. Allah azza wa jalla, il a décrit les croyants comme entrant à la Mecque, muqassirina ru'usakum. Comme rasant la totalité de leurs cheveux, muhalliqina ru'usakum, comme rasant tous leurs cheveux, ou en muqassirin, ou en diminuant tout.
Je voulais te poser une question. En ce qui concerne les ongles, que ce soit des pieds ou des mains, ça aussi il faut les couper. C'est une obligation.
Non. Ça c'est. Tu parles tout le temps. Tu parles tout le temps. Ou pour la Umra ou tout le temps?
Non, dès que tu passes pour la Umra ou la Al-Hajj.
Alors ça, c'est le cours d'il y a 2 jours. Tu ne peux pas dire qu'on n'en a pas parlé. On en a parlé il y a 2 jours. Ouais. D'accord? Tu regarderas la vidéo. On a expliqué ça, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Donc ici, le rasage ou le raccourcissement des cheveux, c'est une obligation du Hajj et de la Umra. C'est une obligation du Hajj et de la Umra. Également, le rasage des cheveux est meilleur que le raccourcissement. Le halq, il est meilleur que le taqsir. Le rasage des cheveux, il est meilleur que le raccourcissement. Bien sûr, on l'avait déjà dit, lorsque il y a très peu, si toi, tu te désacralises pour le Hajj, tu te désacralises pour la Umra et tu vas bientôt faire le Hajj, s'il n'y a que quelques jours, dans ce cas-là ici, le mieux, c'est de raccourcir pour pouvoir raser lors de ton pèlerinage. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait les compagnons. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'ils étaient dans le rite tamattu', ils sont arrivés à la Mecque le 4e jour de Dhul Hijjah. Et le Hajj commence quand? Le 8e jour. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raccourci leurs cheveux pour pouvoir couper leurs cheveux le 10e jour. D'accord? Donc ici, ça, on avait déjà cité. Sinon, en dehors de ce cas de figure, le rasage est meilleur que le raccourcissement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué à 3 reprises en faveur de ceux qui se sont rasés. Et à 1 reprise en faveur de ceux qui ont raccourci leurs cheveux. Allahumma ghafir lil muhalliqin. Oh Allah, pardonne à ceux qui ont tout rasé. Et dans une version du hadith, Allahumma arham lil muhalliqin. Oh Allah, fais miséricorde à ceux qui ont tout rasé. Et ils ont dit, ceux qui ont diminué, il a redit la même invocation. Allahumma, oh Allah, pardonne ou fais miséricorde à ceux qui ont tout rasé. Ils ont dit, ceux qui ont diminué, 3e fois, il est invoqué pour eux. Et ensuite, il dit, walil muqassirin. Et pour ceux qui ont diminué. Donc 3 invocations que tu peux gagner de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, contre une. Et le rasage ou le raccourcissement des cheveux, pour les hommes, concerne tous les cheveux de la tête. Il n'est pas suffisant, comme certaines personnes le font, de raser, et ça c'est même haram, c'est même interdit tout le temps, une partie des cheveux, et laisser une autre partie. Comme on voit les jeunes, ils vont faire des fondus, ou même des fois des frères, tu le vois à la mosquée comme cela, ils vont raser une partie ici et ils vont laisser une autre partie ici. Ça c'est pas permis, ça a été interdit par le prophète alayhi salatu wassalam. Ou ils vont couper une partie là, une partie là, une partie là. Non, tu dois raser la totalité de tes cheveux ou diminuer ou raccourcir la totalité de tes cheveux. Qu'est-ce qu'on appelle raser et qu'est-ce qu'on appelle raccourcir? Raser, c'est seulement avec la lame. El Moussa. C'est seulement avec la lame. C'est-à-dire la lame, c'est ça le terme, se raser. Raccourcir à la tondeuse ou au ciseau. Donc si tu prends la tondeuse et tu prends le sabot 0 et tu enlevais tous tes cheveux, ça s'appelle quoi? Raser ou raccourcir? Ça s'appelle raccourcir. Donc subhanallah, si c'est pour faire ça, fais la lame. Si c'est pour faire le sabot 0, et certains ils font le sabot 0, ils font pas la lame. Ben, si c'est pour faire le sabot 0, il te reste quoi? Un millimètre après avec la lame. Ben, gagne la récompense de tout raser, c'est meilleur. C'est meilleur. Après celui qui est malade ou autre, innama al-a'malu binniyat. On parle pas et on ne juge pas quelqu'un qui est malade ou autre, qui a un udhr. D'accord? Non, on parle bien sûr dans le cas où la personne n'a pas de cela. Donc ici c'est important, c'est que le rasage ou le raccourcissement des cheveux, c'est ta'mim ras. Cela comporte toute la tête. Quant à la femme, c'est interdit pour elle de se raser les cheveux. C'est interdit, c'est haram. La femme, elle ne peut pas se raser. Il ne faut pas qu'elle dise « je vais gagner les invocations du prophète » alayhi salam salam. Non. Ici, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses cheveux comme la femme qui va faire une tresse, un exemple, ou une queue. Donc elle prend tous ses cheveux et elle prend la taille de l'urmoula, donc la taille d'une phalange, et elle coupe. Certaines femmes, elles prennent juste une mèche et elles coupent. Non, c'est tous les cheveux. Donc elle prend tous ses cheveux comme une, comme si elle va faire une queue, et elle va simplement couper de la taille d'une phalange. Elle va couper la taille d'une phalange. Pas la taille d'un doigt, la taille d'une, d'une phalange. Comme cela a été rapporté dans la parole, les femmes ne doivent pas se raser la tête. Il est obligatoire de raccourcir leurs cheveux. Également, une des graves erreurs qui est faite sur place, c'est des femmes qui coupent leurs cheveux devant tout le monde. Donc elles finissent à Marwa, elles enlèvent le hijab ou une partie de leur hijab, elles prennent, elles coupent. Déjà dans la manière dont elles coupent, elles sont une erreur, mais encore plus grave. Subhanallah, c'est une incompréhension totale. Donc ici, attention à ne pas tomber dans cela. Et dernier point, il est permis à celui qui est en état de sacralisation, au moment de sa désacralisation de la Umra ou du pèlerinage, de raccourcir ou de raser ses cheveux de la tête, ou de le faire également pour une tierce personne lorsqu'elle se désacralise. Car ceci est une obligation du pèlerinage et de la Umra, et cela ne constitue pas un acte interdit pour son état de sacralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que certaines personnes, ils se disent, j'arrive dans ma chambre, parce que soit tu vois au coiffeur, ou soit tu arrives dans ta chambre. Tu te coupes dans ta chambre ou quelqu'un te coupe. Mais un exemple, on est ensemble. Et je vais te dire, Nordine, s'il te plaît, coupe-moi mes cheveux. Toi, tu vas me dire, attends, moi, je suis en état de sacralisation. Et je ne peux pas te couper. Ou il va dire, moi, je suis en état de sacralisation. On a dit, tu ne peux pas couper les ongles, tu ne peux pas couper les cheveux. Et je ne peux pas me couper. Non, ici, ce n'est pas un interdit, c'est une obligation. Donc, dans ce cas-là, même si toi, tu es encore en état de sacralisation, tu peux couper pour quelqu'un. Et tu peux te couper toi-même. Tu prends la lame. Et bien sûr, attention à ne pas te blesser. Mais il n'y a pas de mal à te raser les cheveux tout seul, ou à ce que la personne te rase ou te coupe les cheveux, qu'il soit en état de sacralisation ou pas, toutes ces choses-là, il n'y a pas de mal. Et là, pour celui qui fait le rite tamattu', il a terminé sa amra. Donc celui qui fait une amra toute l'année, ça y est, il a terminé sa amra. Et ensuite, il reste à Mecca et il va, s'il n'a pas encore été à Médine, il va, et il profite de faire un maximum de bonnes actions. Et pour celui qui attend le hajj, pour celui qui attend le hajj, dans ce cas-là, il patiente. Il peut se désacraliser. Donc là, à ce moment-là, une fois que tu as rasé tes cheveux, ça y est, tu peux enlever ton izar, tu peux enlever ton reda, tu peux utiliser du parfum, tu peux utiliser un savon qui est parfumé, tu peux mettre ton qamis, tu peux... Tout redevient licite. Un exemple, celui qui est en famille avec son épouse, il peut avoir des rapports, il peut... Toutes ces choses-là, puisqu'il est désacralisé. Il ne faut pas penser que ce qui est interdit dans l'état de sacralisation, c'est interdit tout ton voyage au pèlerinage. Non, c'est seulement quand tu es en état de sacralisation. Donc là, il n'y a pas de mal. Et la personne, elle attend le 8e jour. Et ça, bi'idhnillah, on étudiera après l'Asar, les actes du pèlerinage au moment du 8e jour. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et un dernier point pour ceux qui font que la Umra, ben une fois que ta Umra est terminée, ça ne veut pas dire que tu perds ton temps. Parce que souvenez-vous, quel était le signe pour savoir si Allah Azza wa Jalla a accepté tes œuvres ou pas, c'est que tu deviennes meilleur après la Umra que tu ne l'étais avant la Umra. Que tu deviennes meilleur après le Hajj que tu ne l'es avant. Et ça, c'est un signe pour savoir si, et ça fait partie des signes du Hajj Mabrour, de la Umra ou du Hajj qui a été accepté. Jazakumullahu khayra wa naktafi bihada wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.